Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit aujourd'hui un des grands témoins de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Bernard Kasusula Djuma Lokali, ancien ministre de l'EPSP, ancien vice-premier ministre de l'Intérieur et Affaires Coutumières, ancien député et sénateur. Avec lui, nous allons faire le point sur la marche du pays après la création de l'Union sacrée de la nation par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission. Bonjour Bernard Kasusula.
Bonjour Alain.
Soyez le bienvenu.
Merci beaucoup.
Et surtout merci d'avoir accepté notre invitation.
Tout le plaisir est à moi.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Nous allons commencer par parler brièvement de votre parcours que nous découvrons dans ce portrait que nous présente Pierrot Elamegi.
Portrait.
Kasusula Djuma Lokali Bernard est né à Stanleyville, l'actuelle ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo, le 12 mars 1942. Il est originaire du village Bongbandeya, groupement Banganjolo, collectivité Baboro, territoire de Banalia. En 1964, il obtient son diplôme des humanités pédagogiques et ensuite sa licence en sciences psychologiques. Il a un parcours assez riche dans le milieu universitaire où il a été directeur général adjoint de l'IPEN, directeur général de l'ISP Mbandaka, ISP Kananga et ISP Kikwit. Il entre dans la vie politique en 1977 comme ministre de l'EPSP. En 1991, Bernard Kasusula conduit à la Conférence nationale souveraine en qualité de président la délégation de la société civile du Haut-Zaïre, la province orientale dans son ancienne configuration. À la Conférence nationale souveraine, il est élu président de la commission des assassinats et violations des droits de l'homme. En 1993, il est nommé vice-premier ministre chargé de l'intérieur et des affaires coutumières dans le gouvernement du premier ministre Faustin Birundwa. À l'entrée de la FDL, en 1993, il est désigné membre de la commission constitutionnelle. Il participe au dialogue intercongolais à Sun City en 2002. Ensuite, il sera désigné sénateur et président du groupe sénatorial de l'opposition. Bernard Kasusula est actuellement membre de la commission économique et sociale depuis 2014.
Alors Bernard Kasusula, on vient de suivre votre portrait. Y a-t-il quelque chose que nous avons omis dans ce portrait et sur laquelle vous souhaitez insister?
L'essentiel a été dit.
Bon anniversaire déjà prochainement.
Pour merci
le,
beaucoup.
Le 12 mars, vous aurez vos 79 ans.
Ce n'est plus loin, merci beaucoup.
En 1991, la RDC, à l'époque Zaïre, connaît un tournant décisif de son histoire avec l'organisation de la Conférence nationale souveraine qui d'ailleurs se terminera presque en queue de poisson selon plusieurs observateurs. Nous allons faire un retour dans le passé en vous proposant un extrait du discours d'Étienne Tshisekedi, élu premier ministre de la transition par la CNS. Il exercera son mandat de septembre à décembre 92.
La parole est à Monsieur Étienne Tshisekedi.
Honorables conférenciers et chers collègues, nous voici enfin sur le point de poser notre premier acte de démocratie et de liberté, idéaux pour lesquels des compagnons d'infortune et moi-même avons lutté et consacré toute notre vie durant ces 12 dernières années. Un groupe de compatriotes connus sous le nom des 13 parlementaires, parmi lesquels votre serviteur, prenait le courage d'engager notre peuple meurtri sur la voie qui mène vers la liberté et le progrès social. Tout au long de notre combat, nous n'avons jamais douté un seul instant de la victoire finale. Nous n'avons jamais douté que tôt ou tard, notre peuple comprendrait le sens profond de notre démarche très périlleuse, certes, mais ô combien noble et salvatrice. Aussi est-ce avec une réelle satisfaction et surtout avec beaucoup d'espoir que j'observe cette prise de conscience extraordinaire des enjeux de notre pays par notre peuple, dont le courage, la détermination, le sacrifice ont permis contre vent et marée, la tenue de cette conférence nationale souveraine.
Voilà, c'est un moment important de l'histoire de ce pays. J'ai lu beaucoup d'émotions sur votre visage. Vous étiez l'un des acteurs dans cette conférence. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement?
D'abord, je rappelle que c'est avec beaucoup d'émotion, comme vous venez de dire, que j'attends encore une fois la voix d'Étienne Tshisekedi, cet homme qui nous a fait vibrer pendant la conférence nationale souveraine parce qu'il incarnait les valeurs que nous tous nous partagions à l'époque. Alors, s'il faut rappeler certains passages les plus importants de cette période, il faut d'abord rappeler que c'est déjà depuis 1986-87, avec l'arrivée de Gorbatchev à la tête de l'Union soviétique.
Qui amène la perestroïka.
Qui amène la perestroïka. Et ça mit fin pratiquement à la guerre froide. Et comme la guerre froide était terminée, les dictatures qui étaient nombreuses en Afrique n'avaient plus de soutien. Et quelques temps après, pour ce qui est des pays francophones, François Mitterrand va inviter tous ses présidents pour leur parler des changements qu'il fallait absolument mettre fin à la dictature. Voilà comment l'idée des conférences nationales est née. Chez nous, il y a eu des résistances. Mbutu voulait parler plutôt des dialogues, etc. Mais la pression de la société civile. Et là, la société civile commençait à naître avec beaucoup de puissance. Finalement, le dictateur a accepté, malgré lui, qu'il y ait la conférence nationale. Voilà comment nous sommes arrivés à la conférence nationale. Et au niveau de la conférence nationale, la société civile, qui était nombreuse à cette époque-là, chaque province devait envoyer sa délégation de la société civile. Presque une centaine de personnes. Vous voyez, nous étions près de 5000 personnes dans la grande salle
du Congrès.
Du Congrès.
Voilà, du Palais du Peuple.
Du Palais du Peuple. Et là, la majorité était de la société civile. Il s'est fait que la société civile, qui était pratiquement l'église au milieu du village, parce qu'il n'était ni des partis politiques, ni du gouvernement, mais comme les valeurs défendues par l'opposition qui était naissante étaient partagées par la société civile. Quelle était cette valeur-là? La valeur de changement. Tout le monde voulait crier les changements. Tout à fait normal. À un moment donné, on a cru que la société civile faisait partie de l'opposition. Ce n'était pas le cas. Nous avions notre autonomie.
Nous n'allons pas refaire toute l'histoire. Cette émission est évidemment consacrée à autre chose. Mais à l'époque, Étienne Tshisekedi et d'autres leaders de l'opposition créent également l'Union sacrée de l'opposition. Peut-on faire un parallélisme avec l'Union sacrée actuelle appelée par le président Félix Tshisekedi?
Là, c'est une très bonne question. L'Union sacrée de l'opposition radicale, qu'on appelle l'Issoral, avait pour but de rassembler toutes les forces qui étaient acquises au changement, uniquement. Face à une dictature, attention, qui était encore très puissante à ce moment-là. La vaincre seule, c'était impossible. Toute l'opposition s'était mise ensemble. Et la société civile est venue se joindre à cette opposition-là, au sein de l'Union sacrée de l'opposition. Notre chef de file, c'était bien sûr Étienne Tshisekedi, qui était l'incarnation des valeurs de changement.
Revenons à l'Union sacrée aujourd'hui. Depuis décembre, le président Félix Tshisekedi a appelé toutes les forces vives de la nation à l'Union sacrée. Pour commencer, selon vous, Bernard Kasusula, qu'est-ce que l'Union sacrée?
L'Union sacrée, c'est un mouvement qui rassemble les patriotes contre un danger, contre une menace. Et la première fois que ce mot est prononcé, c'est en France, dans la Chambre des députés, par l'ancien président de 1914 à cette époque-là, c'était Raymond Poincaré. C'est lui qui parle pour la première fois de l'Union sacrée face à la guerre qui menace la France. Alors chez nous, quand l'Union sacrée est née, comme je venais de dire, c'était pour rassembler toutes les forces pour vaincre la dictature. Il y a toujours un danger. L'Union sacrée, c'est face à un danger, face à une menace. Aujourd'hui, quelle est la menace? Pourquoi le président de la République a décidé de battre encore le rappel de tout le monde dans une union sacrée, et il appelle l'union sacrée de la nation? Le grand danger, la grande menace, Alain, c'est la déliquescence de l'État. Le Congo est en danger. Beaucoup de menaces. Nous allons en parler certainement au cours de ces débats. Alors, pour vaincre tous ces dangers-là, toutes ces menaces-là, le chef de l'État a rappelé tout le monde. Il a créé ce mouvement. Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement où tout le monde vient.
Je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en cours que je reçois aujourd'hui un des grands témoins de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Bernard Kasusula Djuma Lokali, ancien ministre de l'IPSP, ancien vice-premier ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, ancien député et sénateur. Avec lui, nous faisons le point sur la marche du pays après la création de l'Union sacrée de la nation par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que l'Union sacrée n'est pas ?
Ça aussi, c'est très important. D'abord, ce n'est pas un parti. De deux, ce n'est pas une blanchisserie. Ce n'est pas là où les gens vont acquérir une nouvelle notoriété. Non, l'Union sacrée, il faut comprendre cela comme un mouvement où tout le monde accepte d'entrer pour sauver la nation.
Les choses sont allées très vite après que le président de la République ait appelé à l'Union sacrée. Il a nommé un informateur, Modeste Bahati, à l'Assemblée nationale. Le bureau Mabunda est tombé. Aujourd'hui, c'est le bureau Mbosso, acquis au président de la République. Au Sénat, le mécanisme de mise en place du bureau a démarré et la date de son installation est fixée début mars. Il y a un nouveau Premier ministre qui a été nommé depuis le 15 février 2021, Jean-Michel Sama Lukonde. Alors, vous parliez de la déliquescence de l'État parmi les dangers qu'a vu le président de la République. Qu'est-ce qu'on entend par là?
La déliquescence de l'État, c'est l'effondrement de l'autorité, de la puissance publique. Lorsque un État n'a plus de puissance publique, lorsque un État n'arrive plus à gérer l'ensemble du territoire national, c'est que ça ne va plus. Et c'est ça le plus grand danger. J'en parle pourquoi. Et ça, c'est le premier défi d'ailleurs. Et j'insiste ici, Alain, les défis dont nous allons parler tout à l'heure, ce n'est pas au seul chef de l'État, ce n'est pas au premier ministre, c'est les défis face à la nation. C'est toute la nation qui doit relever ces défis-là. Et c'est très important. Et c'est ça justement l'Union sacrée. Comme je disais, le premier défi, c'est cette multitude, cette prolifération de groupes armés à travers la République. Avant de venir, j'ai compté un tout petit peu, seulement au Kivu, au nord et au sud Kivu. On dénombre près de 132 mouvements armés. À cela, il faut ajouter ce qu'on appelle les groupes religieux, politico-religieux. On les appelle les mouvements syncrétiques parce qu'ils sont religieux, on ne sait pas pourquoi. Ils n'ont pas de doctrine, ils puisent partout. Chez les catholiques, chez les protestants, etc., etc. Donc, ce ne sont pas vraiment des religieux. C'est qu'ils sont réellement des politiques, des gourous, qui occupent aussi des parties du territoire national, où personne ne peut entrer. Pour entrer, il faut payer. Ils sont armés également. Voilà les dangers. Un des plus grands dangers qui planent dans notre pays.
Puisque vous faites allusion au défi, nous allons réécouter le Premier ministre quelques minutes juste après sa nomination, le 15 février. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a échangé avec le président Félix Tshisekedi dans son bureau du Palais de la Nation. Après cet entretien, le nouveau Premier ministre a déclaré que son gouvernement sera formé et fonctionnera sur base des pratiques d'une bonne gouvernance à outrance, de lutte contre les détournements et autres antivaleurs. Il entend mettre son gouvernement au service du peuple congolais. Jean-Michel Sama Lukonde dit avoir reçu la vision du chef de l'État qui tient aux besoins de la population congolaise telle que cela lui a été soumis lors des consultations, notamment la sécurité dans la partie est du pays et au Katanga, la gratuité de l'enseignement et la santé. On l'écoute au micro de Billy Yvan Lutumba.
Le gouvernement qui va être formé va demander que nous puissions appliquer des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs, la fraude en général. Nous nous avons pris l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Ensuite, nous avons parlé des réformes. Parce que le pays en a besoin dans plusieurs secteurs. Ces réformes, nous allons les mener, que ce soit dans le secteur fiscal, que ce soit au niveau de la loi électorale, parce qu'il faut penser aussi à cela, que ce soit au niveau de la digitalisation du pays. Tous ces grands défis et ces grandes réformes qui doivent venir, nous espérons le faire sous le contrôle bienveillant du Parlement. Le gouvernement de l'Union sacrée pour la nation est un gouvernement qui se veut au service du peuple congolais. Et pour cela, nous allons demander à toute la nation, à tout le peuple congolais, de l'accompagner. Parce que sans lui, il ne pourra pas réussir.
Voilà, Bernard Kasusula Djuma, Les défis sont énormes. Vous avez commencé par les défis sécuritaires. Et le Premier ministre lui-même a ajouté les défis socio-économiques, lutte contre la corruption, les antivaleurs, les défis économiques, l'économie qu'il faut relever. Vous êtes partisan de la victoire du sol sur le sous-sol.
Absolument. Et ça ne vient pas de moi. Ça vient du chef de l'État. Il n'a pas dit la victoire, il a dit la revanche. La revanche du sol sur les sous-sols. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître, le pays vit grâce au sous-sol. Mais 2 300 000 km² d'étendue. On ne va pas continuer à vivre seulement des sous-sols. L'agriculture, avant l'indépendance, l'agriculture venait, ce que l'agriculture congolaise produisait venait même légèrement au devant des mines. Vous voyez ça? Et pourquoi on ne peut pas revenir à cela? Et si le chef de l'État rêve à cela, je crois qu'il a raison. Je reviens au Premier ministre. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le féliciter. J'ai saisi l'occasion du micro que vous m'offrez pour lui présenter toutes mes félicitations et mon admiration. Effectivement, quand il parle de l'économie, il en sait quelque chose. L'économie du pays, pour que ça marche, il faut d'abord qu'il y ait la paix. C'est pourquoi j'ai mis l'accent sur la sécurité. Et lui-même a mis l'accent sur la sécurité. Sans la sécurité, comment travailler?
Et comment l'Union sacrée pourrait parvenir à sécuriser le pays?
L'Union sacrée doit sécuriser le pays. D'abord, il faut absolument que tout le monde se mette ensemble. Que chacun s'oublie d'abord soi-même pour penser à l'intérêt général. J'insiste là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'accepter les contraintes d'une bonne gestion. La bonne gestion impose des contraintes. Chacun ne doit pas se chercher lui-même, d'abord chercher l'intérêt général. Si chacun comprend les choses de cette manière-là, il a moyen de redresser la situation.
Voilà. L'Union sacrée de l'opposition radicale, vous en avez parlé,
oui,
qui a suscité également beaucoup d'espoir dans ce pays. À un moment, on a connu le slogan « l'agriculture priorité des priorités ». Vous parliez tout à l'heure de la revanche du sol sur le sous-sol. Mais est-ce qu'il n'y a pas de crainte pour que l'Union sacrée ne reste finalement qu'un slogan?
Je venais de dire que l'Union sacrée, ce n'est pas un slogan, c'est un mouvement. Les dangers, c'est quoi? Et là, vous m'amenez à parler un peu de la politique. Vous savez, Alain, depuis 1960, le Congolais ne fait que la politique. Et quelle politique? Ce qu'on appelle la politicaille, voyez-vous? Si nous en restons à ce niveau-là, évidemment, nous allons tout droit vers l'échec. En 1959, après la table ronde politique, il avait la table ronde économique. Savez-vous que à la table ronde économique, aucun politicien n'était là? Parce que ça ne disait absolument rien. C'était d'abord la politique. Ne répétons pas ça aujourd'hui, nous allons mettre nos autorités en mal. Ça ne pourra pas décoller. Donc, il faut absolument que la politique aujourd'hui puisse être au service du développement, au service de la nation. La politique même, c'est quoi? C'est l'art de gouverner la cité. C'est ça la vraie politique. La politique, ce ne sont pas des coups bas. La politique, ce ne sont pas se rechercher soi-même. C'est ça le vrai problème que nous devons éviter. Avant de venir, je suivais encore quelqu'un qui disait, parmi les gens de l'Union sacrée, ah, nous devons avoir aussi autant de postes parce que nous sommes les plus nombreux. Ce n'est pas ça le débat aujourd'hui. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est de savoir qu'est-ce que chacun apporte pour que l'Union sacrée puisse réussir, puisse relever les différents défis qui sont les siens.
Il y a certains Congolais qui émettent des craintes en pensant, Bernard Kassou-Soula, qu'avec les mêmes acteurs politiques qui hier étaient au FCC, aujourd'hui ont tourné Kazakh et sont à l'Union sacrée de la nation avec le président Félix Tshisekedi, certains Congolais craignent qu'on ait déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre et qu'on demeurera dans la même situation. Est-ce que leurs craintes sont justifiées?
Je ne partage pas ce point de vue. Ce sont les Congolais aujourd'hui qui doivent faire cet effort de se changer d'abord, de se transformer. Voyez-vous, on ne peut pas construire ce pays avec des saints. Qui est saint? Il n'en a pas. Mais aidons chacun à prendre conscience des dangers que nous courons tous. Si ce pays sombre, nous tous nous sombrons avec. Est-ce que les Congolais vont comprendre cela? Je pense que c'est ça le défi du chef de l'État. C'est ça le défi également de M. le Premier ministre. Je suis heureux qu'il ait donné des conditions pour entrer au gouvernement. Et si ce n'est pas n'importe qui entre au gouvernement, n'entreront que ceux qui ont la même vision que imprime le chef de l'État, la même vision que lui, il est prêt à appliquer.
Et qui sont de bonne moralité.
Absolument. Absolument. C'est la moralité. Il y a des gens qui pensent qu'en politique, il n'a pas de morale. C'est faux. En politique, il a la morale. Il a la morale, absolument.
Il y a l'éthique.
Il a l'éthique.
Congo, Congo de Mboka, Mboka ngomo kengeli koi, Mboka ngomo kengeli leopa. Mikolo to sekala kina mosolo ya Mboka Congo ekoki. Tofungwani misolelo, tomoni bozo banyoso to sali. Oya kobongisa Congo aveni, ebongi to sala, ebongi to sala. Moto nyoso ata mwana. Congo ya mosolo, mpembe ya nzoku. Congo ya bwanya, kasa ya mbila. Congo ya makasi, moto ya nkoi. Kala kina mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozo banyoso tosali oya kobongisa Congo aveni ebongi tosala tebongi tosala moto nyoso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya nkasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo, Congo de Mboka, Congo, Mboka ya Bankoko. Congo, Mboka mwana pamba, lobi, Mboka lula yango. Congo, Congo ya Afrika, Congo. Kaya kitoko Congo ya batu mayele Congo makobikisa yo
Capi. Grande interview.
Je reçois aujourd'hui un des grands témoins de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Bernard Kasusula Djuma Lokali, ancien ministre de l'IPSP, ancien vice-premier ministre de l'Intérieur et Affaires Coutumières, ancien député et sénateur. Avec lui, nous faisons le point sur la marche du pays après la création de l'Union sacrée de la nation par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On tend déjà vers la fin de l'émission. Vous avez 79 ans. Vous, nos anciens, vous avez un héritage politique à léguer aux générations montantes. Quel serait cet héritage aujourd'hui?
Moi, je pense que le grand héritage que nous devons pouvoir laisser, c'est changer de politique. Voyez-vous, la vraie politique que nous devons laisser comme héritage à nos enfants qui montent, ils sont nombreux, le sens de mérite, l'esprit de l'effort, l'acceptation de l'autre, le bannissement des antivaleurs. Si nous arrivons à inculquer cela à notre jeunesse qui monte, moi je crois que ce sera vraiment un grand héritage que nous allons leur laisser. Mettre fin aux intrigues, une politique qui n'est basée qu'aux intrigues, ça c'était bon dès les années 1960, mais ça ne peut plus s'appliquer aujourd'hui.
Aujourd'hui, la jeunesse a un problème avec l'esprit de l'effort. Qu'est-ce que vous en dites?
Est-ce que c'est de leur faute? Je ne pense pas. C'est de notre faute à nous. Puisque nous sommes encore acteurs, puisque nous avons encore à donner, c'est maintenant que nous devons prendre conscience de cela et les aider à comprendre. Voyez-vous, si nous, les acteurs politiques, évidemment moi je suis en train de partir déjà, mais ceux qui me suivent sont légèrement de ma génération aussi. Moi j'ai 79 ans, ceux qui ont 70, c'est encore ma génération. Ils ont encore du temps pour aider la génération montante à comprendre qu'il faut changer. Ne pas suivre les mauvais exemples, mais de suivre les bons conseils qui sont donnés à leur génération.
Un message à tous ces jeunes Congolais qui vous entendent, qui vous suivent à travers le monde et à travers toute la RDC. Un message à ces jeunes.
Alors, je dirais à tous les jeunes, l'avenir leur appartient. Pour construire cet avenir, il faut absolument des renonciations. Il faut un effort sur soi-même. Il faut accepter à se transformer. Il faut éviter les différentes antivaleurs que je viens de citer. Si ils peuvent comprendre cela, nous qui partons, nous allons être heureux du côté où nous serons en les regardant, en disant « Oui, nous pouvons compter sur les jeunes à qui nous avons passé la main. »
Un message à la classe politique, à la société civile, dont vous avez été un des acteurs majeurs aussi.
Oui, à la classe politique, c'est pratiquement la même chose. Si nous venons en politique pour nous enrichir, alors nous tuons le pays. Si nous venons au gouvernement, en politique, pour créer du tort aux autres, nous n'avons rien compris. Maintenant, nous devons apprendre à faire la politique pour le bien général, pour l'avenir du pays. À la société civile, je dirais, on est dans la société civile, c'est un peu comme un monitoring. Pour voir là où ça va, on apprécie, on appuie. Qui a dit que la société civile ne peut pas appuyer le gouvernement? C'est faux. Quand c'est bon, il faut appuyer. Mais là où ça ne va pas, il ne faut pas seulement condamner.
Il faut dénoncer.
Il faut dénoncer, mais aussi proposer. C'est ça le rôle de la société civile.
Bientôt, je pense aussi que vont suivre les entreprises du portefeuille où on aura des nouvelles nominations. Et à ces gestionnaires-là, qu'est-ce que vous leur dites?
Ah, mais à ces gestionnaires-là, un mot, les entreprises de l'État n'appartiennent pas à eux. Les entreprises de l'État appartiennent à l'État. L'État, c'est qui? C'est nous tous. Alors, si ils sont là pour dilapider, pour tuer les entreprises, ils tuent la nation, ils tuent l'État et ils nous tuent tous. Ces gens-là doivent être poursuivis absolument, Alain.
Bernard Kasusula, notre entretien touche déjà à sa fin. C'est passé trop vite.
Très court.
Ah voilà, je pense que la Providence nous donnera le temps d'en refaire d'autres.
Absolument.
Bernard Kasusula, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie, Alain.
Grand Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. À la mise en onde, Polydor Basunga. Coordination et supervision, Kedin Kouté. À la présentation, Alain Roung Mouchinj. Merci de votre attention et à la prochaine.